Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Calibre, bienvenue.
Bienvenue sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Eh ben, donc ce soir, il est 20h, c'est Calibre, c'est la libre antenne de Radio Kaléidoscope. Et voilà, c'est une libre antenne sur laquelle on parle de...
D'amour, de sexualité, de rapport au corps. On présente l'équipe de ce soir au micro pour parler avec vous, c'est Mel et Marina.
Et à la technique, c'est Greg et Marty.
Voilà, et donc vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09. Le but de la libre antenne, hein, c'est que les micros sont ouverts à vos prises de parole, que ce soit pour des questions ou pour des témoignages, des coups de gueule ou des coups de cœur. Nous, on est prêtes à discuter avec vous sur tous les sujets liés donc à toutes ces questions d'amour, de sexualité. Et on a un premier appel.
Ok.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à Calibre.
Ouais, merci. Merci. Alors, je suis désolée, je suis un peu dans une... je suis dehors, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Normalement, c'est assez isolé, mais voilà.
Bah, ça donne des conditions du direct, comme ça, c'est...
C'est ça, exactement. Et ben moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas appelé.
Ouais.
Et ce soir, j'avais envie de vous parler d'une chose dont vous n'avez pas encore parlé à Calibre, me semble-t-il. Mm-hmm. C'était la question du viol.
Ouais, en effet, je crois pas. On en avait trop parlé.
Bah, peut-être qu'on avait besoin d'un appel d'une auditrice pour avoir le courage de l'aborder.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas un sujet dont on a forcément envie de parler de prime abord, mais moi ça me semblait intéressant de...
Et important, certainement.
Et important, n'est-ce pas, de mettre des mots là-dessus. Et ce qui semblait au début, j'étais partie sur une réflexion très très basique sur la définition du viol, et ben ça m'a amené quand même vachement de questions.
Mm-hmm.
Vachement de questions. Et je suis partie en fait de la définition juridique, hein, toute bête du viol au départ, mais c'est, du coup ça a généré plein de réflexions. Parce que
quelle est-elle cette définition juridique du viol ?
Nous y voilà.
Pour commencer.
Pour commencer, donc la loi dit c'est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, par voie vaginale, anale ou buccale, par le sexe de l'auteur ou par un objet, sans le consentement de la victime. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous évoque.
Il me semble qu'il y a quand même des mots importants comme ce terme de consentement, donc qui est bien au cœur de la question.
Oui.
Donc le consentement, c'est le fait d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, quoi.
Mais ce qui me gêne un petit peu, moi, dans cette question, c'est que c'est quand même assez froid.
Ouais.
C'est
souvent le problème.
C'est juridique.
C'est le texte de loi, quoi.
C'est le point de vue juridique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça oublie aussi. Ça oublie la notion d'un moment où on n'entend pas, en fait, notre nom. Mais puis ça parle que de pénétration, en fait. Et pour moi, je pense que la notion de viol est. Elle est plus large que la simple pénétration, excusez les termes, mais je trouve que c'est quand même intéressant de se demander, d'une part que, enfin pour moi, l'intrusion dans la vie intime et dans la sphère intime est vachement importante à prendre en compte.
Oui.
C'est des fois vachement plus important, c'est un ressenti qui est beaucoup plus fort, même s'il n'y a pas eu pénétration. Et puis c'est un moment où j'ai une autre définition en fait que j'aime bien, même si elle n'est pas complète non plus, qui dit que le viol c'est une relation sexuelle non consentie, avec ou sans pénétration, donc voilà, avec ton tes compagnons, avec un inconnu, avec ou sans violence physique. Ce n'est pas seulement l'image stéréotypée d'un gros méchant type qui nous poursuit avec une arme dans une rue sombre, mais c'est aussi un moment où on n'entend pas notre nom.
Et ça, tu la tires d'où cette...
Je la tire d'une brochure féministe. qui avait été faite sur le viol.
Et alors moi, j'ai envie de te demander de répéter le début là, de ta citation, parce que je n'ai pas bien entendu.
Donc, c'est une relation sexuelle non consentie, d'accord, avec ou sans pénétration. Donc, il y a l'idée du consentement. L'idée que c'est pas forcément le fait qu'il y ait ou non pénétration. Avec ton ou tes compagnons, avec un inconnu, avec ou sans violence physique.
Moi, sur cette question de pénétration ou pas pénétration, il me semble qu'au niveau juridique, il y a le viol où il y a effectivement cette histoire de pénétration et il y a l'agression sexuelle et que le droit fait la différence entre un acte où il y a une pénétration et un rapport non consenti où il n'y a pas de pénétration et que du coup, en fait, de là, il y a une espèce de hiérarchie qui se crée comme si c'était plus, enfin, il y avait des choses qui étaient plus graves que d'autres et il y en avait qui étaient moins grave que d'autres, en tout cas. Enfin...
Et ta deuxième définition, du coup, qui est tirée d'une brochure féministe, donc il semblerait que là, soit considéré sur un pied d'égale gravité le fait qu'il y ait pénétration ou non.
Voilà, oui. Ouais. C'est le,
et toi, ça te parle plus ?
Moi, ça me parle plus, même si c'est pas forcément complet. Il manque plein de choses. Hein. Je pense qu'il manque, les notions d'inceste, de pédophilie, etc., qui sont pas comprises dans cette définition-là, mais qui sont vachement plus larges aussi.
Ouais. Ou là, la notion de consentement, elle est encore un peu différente. Parce que c'est vrai que la capacité à dire non d'un enfant, elle est un peu différente de celle d'un adulte.
Et puis le consentement, c'est pas forcément... Enfin, pardon, tu voulais...
Non, vas-y.
La question du consentement, il est souvent remis en cause par la question du verbal. En fait, on pense que le consentement, c'est forcément dire non. Mais c'est aussi, souvent, ça s'exprime par d'autres phrases, par d'autres postures physiques, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et souvent, on schématise un peu...
Par le silence, même, des fois.
Et par le silence, évidemment, oui. Et du coup, c'est vrai que prendre en compte d'une part que l'intrusion dans la sphère intime, pour moi le mot viol il peut être plus large en fait, que la stricte définition juridique. Après, c'est vrai que évidemment que la loi fait des choix et hiérarchise, mais nous d'un point de vue, moi comme la façon dont j'ai envie de me l'approprier cette question là. J'ai pas envie de m'arrêter à cette définition juridique, en fait. Je pense. Enfin, voilà, après...
Est-ce que ta question, ou ton questionnement, finalement, c'est sur la question du ressenti, en fait, de se sentir violé.
Ouais.
Et comment est-ce que c'est possible de définir ça, précisément ?
Après, moi, j'ai l'impression que... ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est de laisser s'exprimer ce ressenti-là. Et qu'il y ait la place pour que la personne, elle s'est sentie violée, même s'il n'y a pas eu de pénétration, de l'accepter comme telle. Après, juridiquement, c'est encore autre chose.
Moi, j'ai l'impression que cette histoire de définition aussi, c'est comment, à un moment donné, on arrive à... Si on se met d'accord sur une définition, ça permet de poser quelque chose qui fait qu'un acte peut être reconnu à travers cette définition. Et qu'effectivement... ce que tu dis sur la définition juridique qui est très restrictive en fait, que tu opposes à la seconde qui amène beaucoup plus de choses, j'ai l'impression que t'as envie qu'on prenne en compte une définition plus large du viol pour que des personnes puissent reconnaître leur expérience là-dedans et puissent être reconnues comme des personnes ayant subi des viols, quoi.
Ouais. Oui, en tout cas, mais évidemment, je ne me place pas d'un point de vue de procédure judiciaire. C'est plutôt quel ressenti, quelle est la place pour entendre ça dans notre société aujourd'hui, quoi.
Voilà, et toi, tu penses que c'est quoi la place pour entendre ça dans notre société aujourd'hui ?
Je pense qu'on est encore pétri de plein de stéréotypes, en fait, avec des gens qui vont dire... les femmes violées l'ont très probablement cherché en portant des tenues aguicheuses. Enfin, c'est des plein de phrases que j'ai sorties de témoignages et de choses comme ça, en fait. Le fait qu'on prenne pas le temps d'écouter le ressenti juste de la personne en face. Tu vois, c'est juste une question de point de vue, en fait. Je sais pas si je suis très claire là-dessus, mais...
Oui, quoi, en tout cas, il y a des représentations du viol qui pourrait être d'une femme violée parce qu'elle est, forcément aguicheuse. Là, dans ta définition, il y a aussi l'histoire de des inconnus ou des proches. Que ça aussi, par exemple, il y a une représentation comme quoi ça serait plutôt le fait d'inconnus dans la nuit au coin d'une rue, alors qu'en fait, la majeure partie des viols se font par des proches et souvent dans le domicile même de la personne qui le subit.
Oui, il y avait un slogan qui passait, qui avait été apposé sur les murs un petit peu partout, à Paris notamment, avec marqué « L'agresseur ne sonne pas, il a la clé ». Quelque chose comme ça. C'est vrai que 70%, enfin, il y a des statistiques, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, et qui disent que, déjà, c'est une majorité de... Dans la majorité des cas, la victime connaît son agresseur. Mmh. Et puis que 70% des viols seraient commis avec préméditation.
Ah ouais.
Voilà.
70%
des viols seraient commis avec préméditation.
Préméditation, ça veut dire on y a réfléchi avant et on sait qu'on va le faire, quoi. C'est pas une espèce de pulsion subite.
Voilà. Donc ça démolit le côté instinctif, le côté de...
Tout à fait.
De l'homme pulsionnel, de la personne pulsionnelle.
Bah, est-ce que tu as des statistiques? Parce que là, tu t'es reprise, t'as dit l'homme et après t'as dit la personne. Est-ce que tu as des statistiques sur... qui sont les auteurs des viols?
Bah, c'est 98% des personnes condamnées, parce que ça c'est encore... sont des hommes.
D'accord. Non, mais c'est parce qu'on se reprend, puis en même temps, pourquoi se reprendre, puisque
pourquoi
ce sont des hommes.
C'est vrai. Ouais,
il faut dire
la
vérité.
Non, c'est une majorité d'hommes. Après, ce que j'essayais d'induire des nuances, parce que d'une part, d'un point de vue de la victime, souvent, on a tendance à occulter qu'il y a des hommes victimes aussi, mais pas forcément de la part des femmes, mais d'autres hommes, qu'il y a aussi des enfants. Et d'en faire un cas purement, j'ai envie de dire, un point de vue purement féministe, de l'aborder souvent d'un point de vue d'angle féministe, alors que pour moi, ça peut se poser sous plein d'angles d'approche différents, en fait, aussi. Je sais pas si je suis très claire là-dessus.
Moi, ce que je comprends et ce que je trouve très important dans ce que tu dis, c'est que si la majorité des agresseurs, l'énorme majorité des agresseurs sont des hommes et que ça, c'est un fait statistique, parmi les personnes victimes d'agressions sexuelles et de viols, effectivement, on ne trouve pas que des femmes, on trouve également des hommes et des enfants. Mmh. Que ce soit des enfants des deux sexes, quoi.
Oui. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir quels sont les mécanismes qui apparaissent dans toutes ces questions-là. Notamment la question de la domination et la question de la frustration. Un petit peu. Pour moi, c'est les deux vecteurs, que ce soit dans la pédophilie, l'inceste, le viol de manière générale. C'est les deux ressorts. Sociologique, je sais pas comment le dire, mais qui apparaît, c'est c'est pour écraser, dominer l'autre, que ce soit en temps de guerre, que ce soit aussi parce que pour montrer sa supériorité par rapport à d'autres. Et puis il y a la question de la frustration aussi, qui est aujourd'hui dans notre société, si on regarde autour de nous tous les jours, on fait l'apologie de la puissance, de la performance sexuelle, et ça on laisse pas la place à cette désolé pour les bruits autour. On ne laisse pas trop la place à une personne qui aurait des complexes vis-à-vis de cette société de performance, en fait.
Ouais, mais en même temps, moi j'ai l'impression que, comme on disait tout à l'heure, il y a 98% d'hommes qui sont les auteurs de ces viols, et du coup, cette frustration, ils touchent autant les hommes que les femmes, et peut-être que la pression à la performance touche plus les hommes dans cette société où c'est une valeur qui est plutôt associée à la construction masculine, mais moi, je crois que c'est pour... de tes deux vecteurs, le plus important, il me semble que c'est vraiment la question de la domination. Enfin, qu'effectivement, on vit dans une société où les hommes dominent les femmes et où, du coup, le viol, en fait, est un des moyens, un des témoins de cette domination, quoi. Il me semble.
Oui, c'est sûr, mais je sais pas quelle est la part en fait entre les. Mais j'ai pas de statistiques là-dessus ou de réflexion plus. Enfin, moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même une forte place pour la frustration aussi quand même. Enfin, en tout cas, c'est... Mais d'une manière générale, après elle s'exprime pas pareil. Elle va s'exprimer de manière générale par de l'agressivité qui est pas forcément sexuelle d'ailleurs. Mais cette frustration, moi je la sens prégnante en fait dans la société aujourd'hui. Par le matraquage médiatique, par le. Mais même nous en tant que femmes, hein, enfin, je trouve qu'on est soumises à des normes qui sont pas forcément liées à la domination en fait. Enfin, après, c'est un gros débat. Hein, j'ai pas de. Moi ce qui m'intéressait surtout, c'est revenir sur cette question de consentement, de prendre en compte la parole de la personne qui se dit être victime de viol. Et puis. Et puis voilà, voir que ces angles d'approche ils sont intéressants et pas prendre le viol que du point de vue des femmes. Enfin, disons que c'est intéressant de croiser les points de vue quoi, et les angles d'approche.
Tu veux dire que c'est intéressant d'avoir des témoignages de femmes et des témoignages d'hommes sur le sujet.
Et puis de s'y intéresser pas qu'en disant que pas envisager les viols seulement comme crimes sexués. Pas seulement déclenché par la haine et le mépris des femmes,
mais plutôt
essayer d'élargir et de, justement la question de la domination, la femme est un objet entre guillemets évidemment de domination parmi d'autres sur pour moi c'est un phénomène qui est beaucoup plus large en fait.
Alors moi, pour essayer de bien comprendre ce que tu essayes de dire, d'exprimer, pour un homme, du coup, un homme qui est violé par un autre homme, pour toi, c'est l'expression, tu l'analyses comme une expression de domination, mais aussi de frustration. Et du coup, ce que tu essayes de dire, c'est que souvent, j'essaye de comprendre, hein, souvent, on analyse le viol comme une arme, par exemple, du patriarcat. Dans les analyses féministes, on va dire que le viol c'est une arme pour la domination sur les femmes. Et du coup, si on regarde juste ça dans cet angle-là, pour toi ça ne marche pas pour expliquer les viols des hommes, c'est ça ?
Des hommes, des enfants.
Alors que pour moi ça marche aussi. J'aurais du mal à l'expliquer. J'ai pas trop préparé cette explication, mais pour moi c'est autant une arme du patriarcat de dominer aussi les hommes et de les ramener à un état de soumission. Et d'ailleurs toutes les insultes qui sont aussi des insultes homophobes sur la sodomie et tout ramènent les hommes qui soient consentants ou pas qui ont le rapport à la sodomie à des femmes. Du coup pour moi c'est lié à tout est lié à cette histoire de domination patriarcale, mais peut-être que tu as une autre j'aimerais que t'entendes plus sur comment tu décales ton regard là justement.
Mais parce que c'est plutôt par rapport à la pédophilie en fait, je me pose la question. C'est pour moi c'est pas une histoire de domination en fait. Par exemple. C'est une histoire de pour moi c'est plus une histoire de frustration en fait. Il y a moins la notion de domination.
Moi il me semble aussi que c'est une autre forme de domination, mais c'est aussi une domination des adultes sur les enfants. Enfin c'est aussi de
mais le problème c'est, enfin en tout cas moi dans la réflexion que j'ai pu mener là-dessus j'ai l'impression que l'enfant est considéré comme un adulte en fait à ce moment-là souvent. En tout cas dans les témoignages que j'ai pu là par contre récolter moi-même pour avoir fait partie d'une association d'aide aux victimes de violence qui était plutôt axée sur la question de la pédophilie, c'était clair que ce qui revenait souvent c'est qu'on considérait l'enfant comme un adulte.
Que dans la psychologie des violeurs,
ouais.
Le violeur considérait sa victime comme un adulte, un alter ego, quoi.
Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec cette question. En disant, à mon avis, il n'y a pas que la domination, mais évidemment qu'elle en fait partie et que Mais je pense que ça s'articule avec une question de frustration quand même.
Ouais. Et alors cette question de la frustration, moi j'ai bien envie de la creuser parce que j'aimerais mieux me comprendre. Frustration de quoi en fait?
Du coup ça me fait réagir, ça me fait réfléchir, mais je pense que c'est ce culte de la performance qui est derrière, qui fait qu'il faut toujours être au top et complètement à fond et toujours dépasser ses limites dans tous les sens. Et qui génère forcément à un moment une espèce de frustration, parce que de toute façon, vu la vitesse à laquelle notre société elle va, à mon avis, beaucoup de gens sont dépassés, quoi. Je sais pas si...
Mais du coup, cette frustration-là, ou cette incapacité à être au top, ou en tout cas à correspondre à cet idéal de performance, générerait une agressivité sexuelle qui provoquerait un viol, quoi.
Entre autres, et qui est renforcée par justement la publicité notamment, et la place de la femme dans la publicité, et pas que de la femme, même de plus en plus de... Enfin, je veux dire, on rend tentant, enfin, en tout cas, la plupart des publicités sont complètement aux prises avec cette question de la marchandisation du corps, en fait.
Ouais, alors, loin de moi l'idée de ne pas... je vais tourner la phrase autrement. Je suis d'accord pour dire que la publicité est un fléau qui apporte beaucoup de mal.
Ouais.
Je pense dans nos têtes et dans... Voilà, qui nous influence énormément, je pense, à plein de degrés. Malheureusement, la pédophilie existe bien avant la publicité. Enfin, n'a pas attendu le capitalisme et la publicité pour exister. Les désirs pour les enfants, l'attirance, l'attraction vers des êtres plus petits, tout ça, je pense que ça existe depuis super longtemps, quoi.
Du coup,
ça peut pas s'expliquer juste par une question sociale de ce type-là.
Ouais, je dis pas que c'est une conséquence. Je dis que ça, en tout cas, ça n'arrange rien, en tout cas.
Oui.
J'ai pas une explication. Enfin, je suis pas en train de dire que c'est la faute à la publicité, parce que c'est pour moi, la publicité est un des, enfin, la publicité ou la marchandisation du corps de la femme et ou des humains en général, de toute façon. Est un des vecteurs de cette frustration, mais évidemment que la pédophilie existe depuis, puis ça s'appelait pas c'est un terme plutôt positif à une période d'ailleurs. Enfin,
ah oui.
C'est encore notre débat. Ben il y a des sociétés où c'était pas du tout la même conception de la relation avec un enfant, c'était pas du tout répréhensible ni quoi que ce soit.
Tu sais lesquelles?
Je dirais qu'à l'époque de la Grèce, déjà la Grèce antique,
ouais.
Il me semble. Mais ça, je connais pas bien après. Hein. Je suis pas du tout spécialiste là-dessus non plus. Enfin, moi, je me suis
plutôt intéressée. Parce qu'en ce qui concerne la Grèce antique, moi, mais c'est pareil. Je suis pas une grande spécialiste. J'avais plutôt l'idée, aussi un peu une idée reçue, que c'était plutôt des jeunes garçons, des adolescents, mais pas des. Ça se discuterait à partir de quand commence la pédophilie. Enfin, dans mon imaginaire, c'était plutôt des jeunes garçons plutôt que des enfants.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais,
j'ai jamais réfléchi à quel âge exactement.
Oui, puis en même temps, l'âge, il est aussi relatif à une société, puisque aujourd'hui, avoir 20 ans, c'est pas pareil que d'avoir 20 ans en Grèce antique en termes de positionnement de la société, vu que, enfin bref.
À quel moment tu deviens adulte, etc.
Voilà. Mais moi, la question que ça me pose quand même, cette histoire d'analyser le contexte social dans lequel se passent des viols et tout ça, et j'ai pas de réponse à ça, mais c'est que, en fait, c'est comme si ça me fait l'effet de comme si ça enlevait un petit peu aussi la responsabilité de l'individu qui commet un viol, quoi. Enfin, alors moi j'aime bien analyser la société, comprendre pourquoi on a tel et tel comportement et tout ça, mais quand même des fois je reviens à me dire en fait on vit tous dans cette société, on n'est pas tous des violeurs quand même. Et
il y a quand même bien des responsabilités individuelles à un moment donné. ou collective, mais en tout cas des responsabilités quoi à prendre.
Oui,
en compte,
non, mais ça c'est sûr. Mais enfin, tu fais bien de le, enfin, vous faites bien de le rappeler évidemment, ouais. Oui, oui. Moi, ça me semble, enfin, la question de la responsabilité, elle est entière de la. Après, c'est plutôt des phénomènes. Enfin, je suis pas en train d'enlever la responsabilité de l'agresseur, loin de là. Hein.
Non, mais je disais pas ça. Hein. J'avais juste, ça me faisait réagir comme ça. Quoi.
Oui, mais c'est important, oui. C'est quand même important de le, enfin, de toute façon, l'objectif, c'était pas de trouver des excuses aussi, loin de là. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, on n'en parle pas assez, je trouve. Et surtout on l'entend pas, enfin on laisse pas cette place là justement, souvent on a tendance à fermer quand on entend quelqu'un qui va nous parler d'une soirée qui s'est mal passée avec un pote parce qu'il a été un peu relou ou machin, on va pas laisser la place à exprimer ce ressenti. Et pour moi ça c'est une chose qui est essentielle. Qui après des poursuites ou juridiques, ça c'est encore c'est complètement autre chose, mais déjà prendre en compte la parole de la personne, pour moi c'est énorme.
Et la croire, la prendre en compte et.
Bien sûr, non mais oui. Oui, bien sûr.
Et du coup, pour peut-être aller vers une forme de conclusion, on peut prendre le temps de la développer, cette conclusion, mais j'ai l'impression que toi, quand tu dis que tu voudrais qu'on en parle plus, que c'est encore un gros tabou, ça signifie que en parler plus, libérer la parole sur ce sujet-là, ce serait peut-être se donner les moyens de réduire le nombre de viols, de prévenir les agressions, tu penses que ça donne de la force? Est-ce que tu penses ça par exemple? Comment?
Je pense que c'est donner des espaces de parole, mais c'est du coup ça va beaucoup plus loin que la question du viol en fait. Ça va de quelle place on se donne à écouter l'autre et à s'écouter en fait, de manière générale, dans toute. Moi je pense que c'est essentiel aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais de laisser cette place-là à l'écoute, et parce que ça permet de refaire le point sur des mots aussi, et ça génère des discussions justement plus larges et pas seulement que dans le cadre j'arrive pas à l'exprimer clairement, mais en tout cas, pour moi, laisser la place à cette parole-là, elle est essentielle, quoi. Parce que elle nous permet quand même d'ouvrir un espace qui est fermé aujourd'hui, de discussion de manière générale.
Mais du coup, tu trouves qu'aussi, ça permet de faire du bien aux personnes qui ont été victimes
Oui. Et puis le fait de laisser cette place pour en parler, ça laisse aussi la place, enfin, d'en parler en tant que victime, ça laisse aussi la place pour en parler de manière peut-être plus désacralisée et d'aborder, de l'aborder en tant que débat en fait. Et de le poser comme on a posé les questions de sexualité de manière plus générale par ailleurs, quoi. C'est comme par rapport au sida, c'est comme par rapport à plein de choses. Si on laisse pas une place pour en parler de manière dédramatisée, moi je pense que...
Qu'est-ce que tu entends par dédramatiser en fait? Parce que moi je trouve que c'est des choses graves.
C'est quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose qui permet... Parce que là actuellement on est dans une... Enfin moi dans les discussions que j'ai avec des gens, c'est... Soit on se ferme avec des stéréotypes, des phrases stéréotypées, et on se laisse pas dédramatiser, oui, c'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas, cette place pour la parole, elle est... J'arrive pas à l'exprimer, c'est super... Pour moi, c'est quelque chose que je sens.
Est-ce que tu veux dire que par exemple, si des personnes sont, en tout cas aujourd'hui, dans une situation de raconter quelque chose comme ça, elles sont tout de suite renvoyées à une figure de victime très stéréotypée, et que du coup, ça ne laisse pas la place à leur vécu individuel
Et même à exprimer en fait.
Ouais.
Enfin, à l'exprimer. Je veux dire, les statistiques sont impossible à vérifier, enfin impossible à poser là-dessus, sur les personnes qui n'ont jamais parlé. Mais je suis persuadée que, en effet, laisser une place pour la parole, ça permettrait justement de faire que des personnes soient acceptent de, et puis puissent plus facilement poser ce fardeau et puis s'en détacher plutôt que de vivre avec toute leur vie sans jamais en parler. Et un jour ça, quand la cocotte minute elle loue, quand ça pète, c'est souvent assez violent. Et de pas en faire quelque chose de tabou, mais d'en faire quelque chose d'important et d'apprendre en considération en fait.
Moi, j'ai l'impression que cette question-là aussi, ça ouvre plus généralement à l'importance du consentement dans les relations, qu'elles soient sexuelles ou affectives, en fait, et que du coup, le viol, c'est le non-consentement absolu, et je sais pas si j'ai envie de faire une hiérarchie non plus là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, quand on est en relation avec des gens, il y a des trucs de consentement qui se jouent je suis pas très claire quoi, mais en fait c'est pas comme s'il y avait les situations consenties, tout va bien, et les viols de l'autre côté quoi. Il y a toute une gamme là-dedans, et parler de viol, c'est parler du coup du consentement, et ça permet de faire émerger l'importance de cette notion là dans les relations qu'on a quoi. Au-delà des situations dramatiques aussi quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça, c'est que à la base il y a une histoire de cette chose où on n'est pas écouté mais il y a tellement d'autres situations dans lesquelles on n'est pas écouté non plus. Pour moi c'est plus large que ça, évidemment, ça fait partie de la relation à l'autre en général quoi. Voilà. Un petit peu, oui, c'est... Mais c'est intéressant, mais c'est... Justement, j'ai l'impression que chaque fois qu'on l'aborde, on aborde cette question du viol sans masque caché derrière un terme peut-être plus vague, mais qui englobe plus de choses d'agression sexuelle, mais qui est, enfin, en tout cas, d'un point de vue, je trouve, moi, plus ressenti, je trouve que c'est beaucoup plus vague. En fait, le mot viol, il est assez froid, il est assez percussif. Et soit on va se cacher derrière des blagues de balles, quoi, ou des espèces de stéréotypes, comme j'ai pu en dire tout à l'heure, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de voir cette porte-là pour commencer à en parler. Et peut-être que... Bah, j'avais plein de... C'est marrant parce que quand j'ai fait mes recherches un peu là-dessus, j'avais plein d'enquêtes, de choses comme ça, de chiffres et tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça que j'ai envie de faire passer, quoi. C'est plus parlons-en et parlons-en de manière... laissons la porte ouverte à cette parole-là, quoi.
Ouais. Bah, effectivement, hein, je pense que tu as raison de vouloir ouvrir cette porte, et que c'est probablement un effort qu'il faut faire... en permanence, parce que, comme on disait en intro, bon bah c'est aussi un sujet dont on n'a pas forcément toujours envie de parler. Pardon.
Oui. Et que c'est difficile de terminer la phrase de quelqu'un, mais bon, Marina a une quinte de tout. Mais moi, ça me fait penser à un texte.
Je m'étouffe.
Peut-être pour terminer, ça me fait penser à un texte. Qui s'appelle Soutenir un ou une survivante d'agression sexuelle,
oui,
qui est en fait une... peut-être tu connais, t'as envie de...
Non, vas-y,
Okay.
Je l'ai lu, mais je...
Ouais.
Voilà.
En gros, pour les personnes qui nous écoutent, c'est une suite de conseils, en fait, pour comment être dans une posture d'écoute par rapport à quelqu'un qui viendrait vous voir et vous dire, en vous disant, je viens d'être victime d'un viol, ou j'ai été victime d'un viol à un moment donné. Et donc, ça donne... Enfin, c'est plein de bon sens, et on n'a pas l'impression de... Enfin, moi, en la lisant, je ne me suis pas dit... m'a pas révolutionné la tête, mais en tout cas c'est quand même des choses importantes à réaffirmer
je pense qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont jamais pensé ce qui est écrit dans cette brochure. Je pense qu'il y a des choses inédites pour la majorité des gens. Je pense que cette brochure est vachement importante.
C'est assez caustique, enfin ce texte, si je me rappelle bien, parce que j'en ai lu plusieurs, mais il est assez... Il donne plein de repères pratiques, mais il est aussi... il donne une espèce d'énergie. Je sais pas, il y a un truc qui passe qui est... Parce que c'est celui-là qui est, il est en plusieurs... il a été fait en plusieurs tomes, en fait, enfin plusieurs brochures.
J'en connais un en une brochure.
Ouais. En tout cas, en fait, c'est... oh là là, je suis désolée. Tiens, de l'eau. Je peux plus parler. Sur infokiosque.net, qui est une réserve inépuisable de brochures, il y a toute une série de brochures sur le viol et sur la question du consentement qui te donne peut-être l'impression qu'il y en a plusieurs, et notamment celle dont parle Mel, qui est celle sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles. Mais les mêmes personnes qui ont fait cette brochure en ont fait beaucoup, des différentes qui déclinent un peu les différents. Merci, pardon.
C'est la crise. On est en train de perdre une animatrice.
C'est que ce sujet m'étouffe de rage, hein. Il faut bien dire la vérité.
Oui, je comprends.
Mais ouais, en tout cas, ouvrir des espaces de parole là-dessus, je trouve ça hyper important, c'est clair. Mm-mm. Et que Calibre puisse en être un, d'ailleurs.
D'ailleurs, hein. Oui, oui. D'où mon appel ce soir, hein. Voilà.
Merci beaucoup.
En espérant que ça en génère d'autres aussi.
Oui, y a besoin. Et puis de réagir, parce que moi, là, ça fait très longtemps que j'avais envie d'appeler, tout ça, donc je me suis remise dans le sujet rapidement, là, il y a peu de temps. Mais voilà, il y a plein d'autres biais par lesquels aborder cette question, et puis le témoignage, enfin, voilà. Parler de soi, parler de d'autres, enfin je pense des situations où on est dans un cas, enfin où il y a une histoire de non-consentement, on en croise souvent, je pense, dans nos vies.
Bah oui, malheureusement.
Malheureusement.
merci beaucoup pour ton appel.
Et avec plaisir.
À la prochaine.
Et à très bientôt.
Salut.
Et puis bonne soirée.
Merci.
Ouais, toi aussi.
On écoute Candy Kane, Super Hero.
I've always been a fighter. When bad times come around, I'm not gonna take it laying down. Superhero, I keep on fighting. There's no way I'm leaving without trying. I'm Wonder Woman, here to stay. If you can't help me, get out of my way. I'm a superhero. Whoa. There's no way I'm laying down and dying. I'm Wonder Woman, here to stay. If you can't help me, get out of my way.
you, you're all superheroes.
J'ai 14 ans et j'ai un complexe qui peut paraître stupide, mais ça me perturbe. Ça doit faire 2 ans que j'ai les petites lèvres vaginales qui dépassent d'environ 3-4 cm de mes grandes lèvres. Ça me complexe fortement. En sport, les filles se trémoussent en culotte et moi je suis gênée car on dirait que mon vagin est plus, comment dire, long. Oui, enfin bon, c'est vraiment affreux et ça en devient invivable. Je n'ai pas de petits copains et je ne compte pas faire ma première fois avant quelques années, mais ça me dérange fortement et j'ai aussi peur que ça gêne mon futur petit copain.
J'ai aussi les petites lèvres qui dépassent de 4 cm et bien plus quand je tire dessus. C'est comme un accordéon.
Une fille de ma classe était en culotte un jour, donc en sport, et des filles ont dit « Ouais, on dirait qu'elle a une bite ». Enfin, j'ai trouvé ça très puéril. Et je me suis mise à la place de la fille, j'étais mal pour elle. Et ça n'a en rien arrangé mon complexe.
Je pensais que j'avais un grave problème et je m'imaginais les pires trucs possibles. Moi aussi j'ai des grandes petites lèvres. C'est un peu fripé et gris, comme si ça avait vieilli super vite.
En fait, j'ai une de mes petites lèvres qui est plus longue que l'autre. Et comme si elle était écrasée. Je voudrais savoir si c'est normal cette différence. Je peux même la voir quand je suis dans une position normale, comme debout, et que je regarde mon sexe. Il y a un truc qui dépasse de mes grosses lèvres. C'est normal ? Sinon, j'ose pas en parler à ma mère. Elle va vouloir regarder. Et le gynéco, j'ai peur. Sinon, est-ce que c'est autre chose qu'une de mes petites lèvres ?
Moi aussi, elles sont grandes. Hein. Surtout une en plus. Bon, si toi tu trouves ça moche, hors partie de jambes en l'air, il y a toujours moyen de les coincer pour pas qu'on les voie sur le chemin des toilettes. Moi je complexais aussi, et j'ai aussi pensé vers mes 16 ans que je pourrais me les faire couper un bout. Mais j'ai eu depuis tellement de compliments que je les aime bien maintenant, et que je ne complexe plus du tout. Effectivement, ça donne de la personnalité à ton minou.
Ben voilà, c'est toujours Cali, vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Et puis ben là, on vient de vous lire des témoignages trouvés sur des forums sur des filles qui complexent sur la longueur de leurs petites lèvres.
Voilà, c'est un peu petites lèvres et grand complexe ce moment-là. Effectivement, un sujet qu'on n'imagine pas fort. Enfin, j'imagine, selon si on est une fille avec des grandes petites lèvres ou avec des petites petites lèvres, on est plus ou moins au courant de ces complexes-là. La plupart d'entre nous, on a passé probablement quelques heures, voire plus, à se regarder le sexe quand on était ado, à se demander si on était normal, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de la forme, de la taille du clitoris, de la taille des petites lèvres qui dépassent plus ou moins, effectivement, quand on écarte, mais même quand c'est serré, quand on se regarde de face, quand on se regarde de dos, quand
de
on
la
se regarde...
pilosité.
Tout ça, effectivement, je pense qu'on se demande beaucoup, est-ce qu'on est normal ou est-ce qu'on n'est pas normal, c'est la grande question. Et je me pose d'ailleurs la question d'aujourd'hui avec Internet, est-ce que ça aide ou pas avec cette espèce de profusion là de photos, d'images, mais également de porno avec plein de sexes de femmes très calibrés, voilà. Le petit abricot, n'est-ce pas ? Donc le petit abricot, c'est rien ne dépasse, tac tac, c'est bien. Et donc quel complexe, est-ce que ça génère plus de complexes qu'avant ? Ça, je ne saurais pas le dire. En tout cas, sur les forums, il y a vraiment des pages et des pages, notamment de jeunes femmes, de jeunes adolescentes qui se questionnent beaucoup et qui paniquent pas mal sur qu'est-ce qui se passera avec leur futur partenaire. Hein. Et puis qui se posent notamment cette question de la chirurgie. Et moi, ça, c'est pour le coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose de peut-être un peu plus contemporain. Alors, est-ce que je vais aller voir le chirurgien me faire couper les petites lèvres pour que ce soit plus calibré selon des normes? Et ça, c'est des questions qu'on retrouve beaucoup sur Internet. On avait envie d'en discuter un peu ce soir.
Bah, en tout cas, moi, j'ai envie de dire qu'il y ait plus de complexes aujourd'hui qu'hier. Peu importe, nous, on a envie qu'il n'y ait plus de complexes du tout.
si on pouvait exister tel qu'on est, avec nos lèvres de cette forme-là, notre cul de cette forme qu'on a, et puis peu importe les autres, quoi.
Mais en tout cas, en ce qui concerne les chattes, il y a une telle diversité que en fait il y a vraiment pas de complexe à avoir, puisqu'en fait on est, enfin il y a autant de femmes que de que de sexe de femmes, quoi. Il y a
au risque de dire une banalité, comme il y a autant de nez différents, de taille d'œil, de taille de lèvres, je parle là cette fois-ci des lèvres de la bouche, de taille d'oreille. Vous pouvez regarder, les lobes d'oreilles sont vraiment tellement différents d'une personne à une autre, c'est incroyable. Bon, et il y a certaines personnes qui complexent beaucoup à propos de leur lobe d'oreille, je le sais, mais néanmoins, on fait grand cas de ces histoires du sexe des femmes, comme les hommes font aussi grand cas d'ailleurs de l'apparence de leur sexe, hein, ça c'est certain.
Qui est aussi très divers.
Voilà.
Mais et c'est vrai que, enfin, je veux dire, les sexes des femmes, ils sont différents à plein de niveaux. C'est la forme du clitoris est différente, la forme des grosses lèvres est différente, et il y a, enfin, la couleur de l'intégralité, la pilosité, tout, vraiment tout est très différent. Et particulièrement la variabilité des petites lèvres qu'on peut aussi appeler nymphes. Je trouve que c'est joli.
Nymphes,
on les appelle les nymphes aussi.
Oh, on se croirait en Grèce antique, on en parlait tout à l'heure.
Non, mais parce que, enfin, appeler des petites lèvres qui sont souvent grandes, petites lèvres, à un moment donné, ça pose aussi quelque chose. Alors moi, j'aime autant, enfin, moi, je trouve ça joli de les appeler nymphes, et du coup, je me dis, en fait, elles peuvent avoir la forme et la taille et la couleur qu'elles veulent. Elles sont pas petites, quoi.
Oui, alors je suis d'accord, mais à ce moment-là, moi, je proposerais peut-être aussi les lèvres internes.
Oui.
Il y a les lèvres externes, qui sont donc les fameuses grandes lèvres, et les lèvres internes, qui sont donc les fameuses petites lèvres qui, des fois, font 4 cm. Alors voilà, forcément, ça complexe tout le monde de les appeler petites.
Mais ça fait plus anatomique, tu vois. Alors oui, que, oh, je vais te caresser les petites nymphes ou les grandes nymphes. Tu vois, c'est mignon, non?
Bon.
Toujours est-il que ces nymphes ou ces lèvres internes, en fait, elles grandissent à la puberté. Donc, un peu un des premiers témoignages qu'on a lu qui disait, bah, moi j'ai 14 ans, ça fait 2 ans que...
Ouais.
Bah oui, effectivement, quand on est petite fille, elles sont toutes petites et puis en fait, elles grandissent et
plus ou moins.
Plus ou moins
selon
les individus. Et donc, effectivement, à ce moment de l'adolescence où on se pose plein de questions sur notre corps et tout ça, et vu qu'on n'en parle pas du tout, parce que moi je l'ai lu aujourd'hui que ça grandissait à la puberté, donc
oui.
C'est une grande nouvelle pour moi, je me dis, quand on n'est pas au courant, c'est vrai qu'on doit trouver ça bizarre. Mais
et
alors
oui.
Vraiment, parlons-en, quoi.
Alors parlons de la taille des petites lèvres, des lèvres internes. Est-ce qu'il y a des études anatomiques qui nous disent, donc, sur un panel des tonnes de femmes, là, ça va de combien de centimètres à combien de centimètres dans...
Moi, dans ce que j'ai lu un bouquin dont je vous parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure pour vous dire des trucs horribles dessus, mais en même temps, il y a des choses bien aussi dedans, notamment sur des informations sur l'anatomie précise. Et les lèvres internes peuvent aller de 1,5 cm à 6 cm. Donc, il y a quand même y a de la marge.
Il y a de la marge, quoi. Donc jusqu'à 6 cm, c'est considéré comme normal.
Voilà.
On va employer ce mot pour une fois.
Sachant que ces petites lèvres ou ces nymphes, tout ça, elles sont extensibles. C'est-à-dire
et
que
oui.
Quand on tire dessus, elles
s'agrandissent.
Puis quand on les lâche, elles reviennent à leur
forme.
C'est
celle qui parle de l'accordéon.
Voilà.
Voilà. Moi, j'ai déjà eu des copines qui disaient aussi qu'elles s'amusaient à tirer dessus et à jouer avec. C'est une forme de modification corporelle, de jeu avec son corps, ma foi. Non, mais c'est vrai. Comme on peut s'amuser avec d'autres parties de son corps. Moi, je suis assez... En plus, étonnée, parce qu'il y a plein de témoignages où on sent que les filles, elles ont été mesurées, quoi. Vraiment, parce que ça les inquiète. Ça dépasse de 5 mm. Et tu te dis, mais oh là 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 là, mais c'est terrible. C'est 5 mm, ça me paraît pas grand-chose, tout de même.
Sachant que, aussi sur un peu ces histoires de chiffres, ou en tout cas, si on veut se comparer à quelque chose ou je sais pas quoi, une femme debout... les jambes, les cuisses fermées, en fait, dans la majeure partie des cas, on voit les petites lèvres dépasser et le capuchon dépasser. Enfin,
oui, alors moi, je me souviens qu'à mon adolescence, ça me complexait. Bon, peut-être que j'étais trop paresseuse pour être vraiment complexée par ça, mais je me souviens m'être regardée et me dire « Ah, mais c'est bizarre, ça dépasse quand même. »
En fait, c'est pour tout le monde pareil.
Ah, voilà.
Sauf effectivement celles qui se font des opérations, des vaginoplasties. Non, pas des vaginoplasties, des labioplasties. Mais peut-être avant ça, avant d'en parler de ça, on
se fait une petite pause musicale.
On se fait une petite pause musicale.
Allez, on écoute Hooker avec Pushing Me sur Radio Kaleidoscope. toujours sur Calibre, Radio Kaléidoscope 97 FM. Vous pouvez nous appeler, c'est une libre antenne, 04 76 09 09 09 pour parler de ce que vous voulez, au sujet plutôt corps, amour, sexualité, bien sûr, mais dans la direction que vous voulez, quoi.
Là, on avait envie de continuer avec un petit témoignage d'une personne qui s'était posé la question de se faire opérer de ses petites lèvres. Donc, on est dans le sujet pour ceux qui nous prennent en route.
Des grandes petites lèvres.
Des grandes petites
grandes lèvres. Enfin, on ne sait plus.
Des sexes des femmes. Et donc, cette fille, quand elle était ado, elle se disait « Ah là là, mes petites lèvres sont bien trop grandes, je devrais les opérer ». Et puis, en fait, le temps a passé, puis elle a changé d'avis.
Les filles, vraiment, je vous conseille d'attendre d'avoir un peu d'expérience et d'avoir ressenti votre corps, de construire un début de confiance en vous, de vous donner une chance de vous affirmer avant de prendre une décision. Vous êtes à un âge où on est en pleine construction de soi et très très réceptif à la pression sociale. Et c'est très dur parfois de sentir qu'on a quelque chose d'hors norme dans son apparence physique ou dans sa tête. Bon, pour les petites lèvres, pas forcément tant que ça, hors norme, justement, mais c'est ressenti comme ça. Enfin, si toutes les nanas se font opérer, bientôt, effectivement, les naturelles passeront pour des phénomènes. En tout cas, maintenant, je sais que les petites lèvres gonflées, ce n'est pas un problème, ni pour l'amour, ni pour le sexe. Je pense pas que mes angoisses reviendraient si je devenais célibe demain. J'ai suffisamment confiance en moi et je veux qu'on m'aime tout entière, pas avec mon sexe mutilé mis aux normes. C'est ma perception actuelle. Bon, ça fait plaisir.
Bah oui, ça fait plaisir. Moi, je trouve qu'elle en tire une chouette expérience et une chouette analyse de son corps. Et puis, ça fait plaisir quand tu vois que des personnes qui avaient un complexe, ben, à un moment donné, elles s'aiment telles qu'elles sont.
Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle analyse bien justement la pression de la norme, notamment à la puberté, au moment où nos corps changent et où on est assez perturbé quand même par tous ces changements, plus ou moins, quoi. Hein, et puis, on se demande plus... dans des grands questionnements par rapport à la norme, justement. Et je trouve bien qu'elle précise, bon, bah là, c'est même pas forcément hors norme en réalité, c'est ce qu'on présuppose être la norme. Et c'est bien ça, tout ça qui est compliqué. Moi, je trouve, dès qu'on touche à ce qu'on nomme l'intimité, les parties intimes de notre corps, qui sont vécues comme telles, c'est qu'en fait, on a tellement peu de discussions là-dessus. C'est tellement tabou, justement.
Oui, de discussions ou d'images autres que celles, effectivement, de la pornographie, où, effectivement, la plupart des actrices se font opérer pour avoir des toutes petites, petites lèvres.
Petites
Donc ça crée, effectivement, une morphologie un peu idéale, comme si c'était comme ça qu'il fallait être. Et comme il y a très peu d'autres, même dans les manuels scolaires, ou... un peu d'images ou dans enfin
alors moi j'ai trouvé un site internet qui alors bon, moi je trouve que quand même ça montre surtout des images de sexe de femmes épilées, alors c'est compliqué, bon, ça permet de bien voir, qui montre justement différents types de pubis, différents types de lèvres, de grandes lèvres, de petites lèvres. Et aussi, bon, je trouvais ça vachement intéressant, des photos d'hymen, et où on voit différents types d'hymen, et je trouvais ça assez fascinant et puis intéressant à voir. Bon, donc on trouve de tout, mais on trouve aussi, c'est ça le problème aussi, c'est grand débat sur Internet, mais c'est qu'on trouve aussi, surtout la majorité des images qu'on va trouver, ce vont être des images normatives qui vont nous pousser vers du coup des complexes. Mais on peut aussi, en cherchant bien, trouver des sites un peu informatifs qui vont nous donner peut-être des images un peu plus réalistes de à quoi... Quelles sont les différentes variables, effectivement, entre parce qu'aussi, on parlait de la taille, mais il y a aussi la question de la couleur qui préoccupe énormément de personnes. Parce qu'on a tendance à... Voilà, ne serait-ce qu'il ne faut pas trop les voir, là, ces fameuses petites lèvres internes. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle petites, c'est qu'elles sont censées l'être. Mais il y a aussi leur couleur. Alors, la couleur idéale, je ne sais pas, ce serait quoi? Ce serait un peu une...
Un rose
pâle, quelque chose. Alors qu'en fait, c'est pareil, il y a une variabilité énorme de couleurs. Bon, bah, ne serait-ce que parce que tout le monde n'est pas blanc, n'est-ce pas ? Donc voilà. Mais voilà, donc ça va aller effectivement de violet,
marron,
bleu, blanc, rose, rouge, rouge. Ça peut changer de couleur aussi au cours du cycle, au cours de notre vie, effectivement. Donc voilà, on peut passer aussi beaucoup de temps à être inquiète au sujet de ces couleurs, de est-ce qu'on est normal, et puis alors la pilosité, tout ça.
Et moi, sur ces histoires d'images de sexe, ça me fait penser, dans les années 70, il y a une femme qui avait fait un recueil de dessins, un cahier de coloriage, en fait, de vulve, avec cet objectif d'apprendre, qu'en coloriant, on apprenne à voir comment s'est fait une chatte, quoi, mais aussi la variabilité. Alors, bon, il y a une brochure qui traîne dans les infoshops, peut-être que vous en trouverez à la BAF de Chemin des Alpins, mais sinon, moi, j'ai pas retrouvé ça sur Internet, mais en tout cas, je trouvais ça aussi intéressant comme
travail sur l'imaginaire, voilà, aussi, et sur nos représentations. Ouais.
En tout cas, pour revenir sur un petit peu les opérations, moi, je trouve que c'est bien que des opérations puissent exister quand, effectivement, il y a des personnes pour qui c'est vraiment problématique parce que...
ça ferait mal.
Il y a des témoignages de femmes qui disent « Moi, je fais de l'équitation, mes petites lèvres, elles sont vraiment très grandes. Le vélo, c'est pas pour moi. »
Ah oui, ça fait mal.
Ça peut faire mal. À une certaine longueur, ça peut faire mal.
Mais alors, moi, j'ai trouvé plusieurs témoignages de filles qui, du coup, ont un peu la technique de les rentrer.
Ah bah peut-être que...
de les replier un peu, alors si j'ai bien compris, parce qu'elles n'ont pas posté des vidéos pour nous montrer, mais n'empêche, elles disent, voilà, alors moi je les replie un peu comme ça, tchac tchac, comme ça, ça ne se voit pas, je les coince à l'intérieur. Bon, j'imagine, il y a des techniques, quoi. Alors, si c'est des techniques pour pas que ça se voit, je trouve ça questionnant, toujours, dans ce truc. Bon, après, c'est des stratégies, hein, pourquoi pas. Mais si c'est des techniques pour que ça fasse pas mal, c'est... Et si... C'est... Bon, moi, j'ai pas envie d'être anti-chirurgie de façon bornée, mais bon, je me dis, si on peut éviter de passer par le scalpel... Parce que ça me fait un peu peur, les cicatrices.
Bah, ouais, mais je pense
c'est quand même des muqueuses, alors c'est pas rien.
C'est pas anodin, je pense que... Enfin, je veux dire, les chirurgiens vont te dire qu'il n'y a pas de séquelles et que tu gardes toute ta sensibilité des petites lèvres, parce qu'il faut savoir que c'est aussi une partie du corps qui est très énervée et qui peut être source de plaisir.
Qui est importante aussi dans le plaisir génital.
Voilà. Et moi, je crois que ça peut avoir des séquelles. En tout cas, il y a d'autres personnes qui le disent. Et bon, ça peut aussi créer moins des selles d'élasticité. Une opération, ça crée de la douleur. Il faut que les cicatrices, elles cicatrisent bien. Enfin, il y a... C'est pas rien,
ça
quoi.
Ça me donne envie, une fois de plus, de lancer un appel à témoignage. Parce que bon, là, nous, on parle, mais en fait, on n'en sait rien. On n'a pas été opéré, on n'a pas spécialement envie de se faire opérer. Donc si ça vous concerne, si vous avez déjà pensé à vous faire opérer, si vous vous êtes fait opérer, pourquoi pas. Eh bien, peut-être que ce sera intéressant d'avoir des témoignages et puis de pouvoir en discuter parce que...
Ah, voilà. Bah oui, ça serait super.
Nous, ça nous questionne, voilà. Et puis ça nous rend curieuses. Et puis une fois de plus, c'est toujours qu'est-ce qui est dicté par des réels choix personnels, des envies. Et à ce compte-là, moi, la modification corporelle, on fait bien ce qu'on veut de notre corps, hein, si on a envie de... se sculpter, je sais, pourquoi pas, si c'est dicté par des pressions sociales et par des présupposées normes sociales de à quoi devrait-on ressembler, ça me dérange un peu plus, ça me questionne un peu plus, on va dire.
Bah, peut-être pour finir, moi je voulais vous parler d'un bouquin où j'ai regardé pour un peu ces trucs anatomiques qui est assez complet, qui passe tout en revue. Alors il faut vraiment être passionné d'anatomie pour s'y retrouver parce que ça parle de ces fameuses nymphes, mais du capuchon clitoridien et des grandes lèvres et tout ça.
Enfin, c'est fascinant. Hein,
tout ça. Ah oui, non mais moi je
c'est pas ironique.
Non, voilà. Et puis pour le coup, ça. L'auteur montre vraiment cette variabilité. Et bon, c'est vraiment un passionné de sexe de la femme, il faut le dire. Donc voilà. Mais alors, ce bouquin, il s'appelle Le sexe de la femme. Il est du docteur Gerhard Zwang. C'est une nouvelle édition parce que c'est un bouquin qu'il a écrit en 67.
Eh bien, ça se sent. Hein.
Voilà.
Je veux bien qu'il y ait des trucs bien dans ce livre et des informations intéressantes. Mais alors, tout employé.
Non, bah, c'est... Bon, il a un certain style. Hein. C'est assez drôle le style qu'il peut avoir. voir pour décrire l'anatomie, c'est quand même pas comme dans un truc d'anatomie, je trouve.
Ça veut dire que c'est un docteur un peu poète.
Voilà, un peu du genre. Mais alors, faut lire que la partie anatomie, hein, parce que tout le reste, c'est vraiment... Enfin, moi, j'y ai trouvé des passages vraiment atroces, sur très, très jugeants, sur les choix des femmes, sur la sodomie, qui pour lui est d'une pratique qui n'est pas...
C'est un gros réac, quoi.
Oui, c'est un gros réac, voilà. Alors, sur les transsexuels, voilà, il est homophobe. Quand il parle des cultures musulmanes aussi, on sent qu'il a un bon fond raciste et islamophobe.
Alors, on fait de la pub pour ce livre. Raciste, homophobe, transphobe. Même s'il a l'air d'aimer les femmes, serait-il pas un peu misogyne quelque part s'il ne considère pas leur capacité de choix, n'est-ce pas?
Notamment, par exemple, par rapport à la pilosité. Alors, il est contre l'épilation. Bon, je pense que en fait, on a déjà fait une émission sur le poil et sur les poils, et bon, on en pense qu'on veut, mais en fait, s'il y a des femmes qui veulent être épilées, elles veulent être épilées.
En fait, il
et
est
lui, il est pas, lui dit ces femmes stupides qui s'épilent, en fait, non quoi.
En fait, il est hyper moralisateur, il est réac. Bon, on n'est pas sûr qu'on vous conseille son livre.
Mais voilà, sur la partie anatomie, si vous êtes un passionné d'anatomie. Vous pouvez vous faire plaisir et il y a des petits dessins sur effectivement les des...
Ouais.
Bon voilà.
Moi, je trouve qu'on peut trouver la même chose ailleurs. Bon.
Bon bah c'est ici que se termine cette émission.
Voilà, c'est un petit coup de gueule mitigé certes, mais tout de même. Calibre, l'émission de Libre Antenne où nous sommes franches.
Voilà. Bon bah ce soir c'était Greg et Marty à la technique, Marina et Mélanie au micro. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Bonne soirée.
Corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.